Vivre FM, podcast. La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
La vie des associations tente aujourd'hui son micro sur Vivre FM à l'association APT, association des personnes concernées par le tremblement essentiel, et à Fabrice Barque. Quand je disais Fabrice, bonjour.
Bonjour Benjamin.
Quand je disais Fabrice que vous êtes le président fondateur, j'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent.
Non, je suis président de l'association en effet, mais le fondateur est Henri Girin, qu'il a créé en 2004.
Tout à fait. Donc j'ai dit une demi-bêtise, on va dire. Et heureusement, vous avez réparé cette demi-bêtise. Alors, avant qu'on parle de l'actualité de votre association, qui est foisonnante, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, j'aimerais tout de même que nous jetions un éclairage, j'allais dire, sur le tremblement essentiel. Qu'est-ce que c'est que ce tremblement essentiel ?
Oui, en effet, le tremblement essentiel est une maladie plutôt méconnue du grand public, alors que c'est une maladie neurologique et génétique extrêmement fréquente, puisqu'elle touche une personne sur 200, c'est-à-dire plus de 300 000 personnes en France.
Ah oui, quand même. Et en dépit de ça, elle est méconnue.
Alors oui, elle est plutôt méconnue du grand public, elle est bien connue du milieu de la neurologie, puisque les neurologues suivent énormément de personnes, évidemment, touchées par cette maladie neurologique.
Alors, les deux mots disent bien ce qu'ils veulent dire, tremblement essentiel, c'est-à-dire que les personnes qui en sont atteintes tremblent, et par là même, j'imagine qu'on voit parfois des gens dans la rue, ou dans et qu'on se dit, ces gens-là sont atteints par la maladie de Parkinson.
Oui, le tremblement est un symptôme neurologique qui apparaît dans plusieurs maladies. Les plus fréquentes, c'est comme vous l'avez dit, le tremblement essentiel tout d'abord, avec 300 000 personnes touchées, et la maladie de Parkinson, dans laquelle le tremblement peut être un symptôme de la maladie. La différence, c'est que dans la maladie de Parkinson, le tremblement apparaît au repos, en l'absence de contraction musculaire, alors que dans le tremblement essentiel, le tremblement va apparaître à l'action et dans le maintien de la posture. Donc concrètement, dès que vous faites un geste, les muscles se mettent à trembler. Donc c'est évidemment un handicap moteur dans la vie quotidienne.
Parce on va en reparler, mais effectivement, la vie est un sacré parcours du combattant dans ces cas-là, parce que le moindre geste coûte, et le moindre geste est complexe. J'allais dire, la vie de tous les jours, vous disiez, vous citez dans des exemples tout bêtement, manger,
se brosser, se raser, se maquiller pour les femmes, verre d'eau à la bouche, porter la fourchette à la bouche, mettre une clé dans une serrure,
se servir d'une carte bleue, évidemment.
C'est ça.
Tout est compliqué.
C'est ça.
Alors, donc, on est d'accord, c'est pas le même type de tremblement donc que la maladie de Parkinson, puisque comme vous le dites, le tremblement essentiel, lui n'intervient que au moment où vous agissez, où vous êtes en action.
C'est ça. Quand on est totalement en repos, par exemple, quand on dort, on n'a pas de tremblement. Ou quand on est dans un fauteuil, typiquement au repos, il n'y a pas de tremblement. Mais dès lors que on effectue des gestes de la vie quotidienne, on se met à trembler. Les tremblements les plus fréquents sont évidemment des tremblements des mains qui touchent 90% des personnes malades. Mais le tremblement essentiel est aussi une maladie évolutive. Donc le tremblement a tendance à gagner d'autres parties du corps. Typiquement, il touche habituellement tout d'abord les mains, il gagne les bras, puis le cou, la tête, le visage.
D'accord.
Et parfois même la voix.
Les membres inférieurs sont touchés, par exemple. Il peut être compliqué de marcher pour quelqu'un qui est atteint d'un tremblement essentiel, qui a déjà fait ses dégâts, j'allais dire.
Alors, comme c'est une maladie évolutive, effectivement, le tremblement va non seulement gagner plusieurs parties du corps, mais il va aussi augmenter en amplitude et diminuer de fréquence, qui va faire que le handicap moteur va augmenter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de recherches en neurologie sur le tremblement essentiel. On sait aussi qu'il y a d'autres symptômes dans les formes évoluées de tremblement essentiel, et notamment des troubles de l'équilibre et des troubles de la marche.
On va reparler de tout ça si vous le voulez bien. Moi, je voudrais tout de même qu'on parle de votre actualité. Je la disais foisonnante. Je crois que là, pour le coup, j'ai pas dit de bêtises, parce qu'il y a deux grands volets de votre actualité en ce moment. Il y a une enquête qui vient d'être publiée et que vous venez de faire connaître concernant les personnes touchées par le tremblement essentiel. Et puis, il y a votre colloque qui aura lieu le 10 octobre prochain.
Oui, on a effectivement, en l'absence de données sur le parcours de santé des personnes concernées par le tremblement essentiel, nous avons réalisé une enquête inédite cette année auprès de plus de 1500 personnes, ce qui nous apporte énormément d'informations sur l'accès au diagnostic, l'accès au thérapeutique du tremblement essentiel, mais aussi à toutes les situations, enfin les situations de handicap moteur et social des personnes concernées par le tremblement essentiel, et nous dévoilons ces résultats lors d'un colloque que nous organisons avec la communauté neurologique sous le haut patronage du président de la République, jeudi prochain, jeudi 8 octobre.
8 octobre, j'avais dit le 10, c'est le 8. Hein, c'est important, ne soyez pas en retard. C'est le 8 octobre, il y a encore un petit peu de place, mais faut quand même faire vite pour s'inscrire. J'imagine qu'il faut s'inscrire à ce colloque.
Alors, vous pouvez vous inscrire effectivement sur notre site internet apt.org, apt.es.org. Et les inscriptions, oui, sont toujours ouvertes. Il reste encore quelques places.
Quelques places, mais il va falloir faire vite. Places vont devenir chères, j'allais dire.
C'est hein? Ça.
C'est ça. Alors, cette enquête, j'aimerais qu'on y revienne sur cette enquête, puisqu'elle constitue l'un des volets de votre colloque. Cette enquête, peut-être pour la première fois, c'est vous qui allez me dire, elle s'intéresse, j'allais dire, aux dégâts, elle s'intéresse, pour le coup, au public touché. On ne parle plus uniquement de l'aspect scientifique, de l'aspect de la recherche, qui est évidemment éminemment important, j'imagine, mais on parle également du public touché.
Oui, ce qui nous a intéressé, c'est que comme la maladie est méconnue du grand public, on a une problématique particulière dans le tremblement essentiel, qui est l'accès au diagnostic, puisque très souvent, quand vous avez un tremblement, peu de médecins généralistes, et dans la même chose dans le grand public, on pense rarement à une maladie neurologique. Le symptôme va être attribué à autre chose. On va vous dire
à quoi,
nerveux,
par exemple,
stressé,
ah oui.
Les adjectifs qui reviennent le plus souvent dans les témoignages que l'on a au sein de APT, les gens pensent que leur entourage les prend pour effectivement des personnes stressées, nerveuses, voire alcooliques ou droguées.
Alors ça veut dire pour certains nerveuses de stresser, ça veut dire finalement déstressez-vous et vous allez voir, ça va aller mieux. Et puis pour les alcooliques et les autres, dit bon faut passer par une cure, mais vous pouvez pas continuer à vivre comme ça. Mais on ne pense pas à une maladie qui malheureusement va être évolutive et commence à faire des dégâts.
C'est ça. Donc on a mesuré notamment effectivement cette errance diagnostique, c'est-à-dire le délai entre les premiers symptômes de tremblement et l'accès au diagnostic le plus souvent par un neurologue. Et donc on a une errance diagnostique de 14 années.
Ah. C'est énorme, parce qu'en 14 ans, j'imagine que le tremblement a eu l'occasion de faire sa place, a eu l'opportunité de faire sa place au sein du corps.
C'est ça, le tremblement a pris souvent beaucoup de place, et puis aussi une grande place psychologique, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de diagnostic,
oui,
que vous ne savez pas ce que vous avez, que tout le monde autour de vous vous dit que vous êtes nerveux et qu'il faut se calmer, du coup, ça n'aide pas à vivre sereinement sa maladie.
Ça n'aide pas parce qu'évidemment, on se dit, bah oui, j'essaie de me déstresser et en dépit de ça, je continue à trembler. On va continuer sans trembler, hein, pour le coup, à parler de votre association APT, à parler de cette enquête, à parler de ce prochain colloque du 8 octobre. On va le faire après une pause musicale sur vous.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Nous sommes aujourd'hui avec l'association APT, association des personnes concernées par le tremblement essentiel, et par Fabrice Barc, qui est le président de l'association. Alors moi, j'aimerais que nous revenions sur cette enquête dont vous allez divulguer les résultats intégralement lors de ce colloque qui aura lieu le 8 octobre prochain. Cette enquête, vous en avez déjà publié un certain nombre de résultats. Qu'est-ce que ça donne?
Alors, ce qui est intéressant, c'était de vraiment connaître les symptômes des personnes concernées par le tremblement essentiel et leur entrée dans le parcours de soins. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, au-delà de ce que je vous disais sur la durée des errances diagnostiques, c'était aussi de savoir quand les tremblements avaient commencé, puisqu'il existe deux formes de tremblements essentiels. L'une extrêmement fréquente qui commence entre 50 et 60 ans et qui est évolutive, et une forme plus rare, mais qui touche quand même plus de 45 000 personnes en France, qui démarre dès l'enfance avec un profil particulier, puisque là, il y a une augmentation de l'amplitude du tremblement pendant l'enfance, donc avec des difficultés à l'école, des difficultés...
Alors là, dans ces cas-là, j'allais dire, l'errance de diagnostic doit être moindre, parce qu'on peut imaginer que si on découvre qu'un enfant commence à trembler alors qu'il est petit, on ne peut pas se dire que c'est parce qu'il est stressé quand même.
Eh bien si, justement, c'est l'errance diagnostique est beaucoup plus longue dans les formes précoces, hein, c'est-à-dire que dans les formes tardives, ce qu'on a vu, c'est que l'errance diagnostique est de 5 années en moyenne, c'est donc beaucoup plus court, probablement parce qu'on pense à la maladie de Parkinson, et donc le médecin traitant va plus vite diriger vers un neurologue. En revanche, dans les formes précoces, c'est-à-dire qui démarrent dès l'enfance, là, ça va être extrêmement long. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que parmi les 1500 répondants à cette enquête, une personne sur trois a commencé à trembler avant 20 ans.
Oui, c'est jeune quand même, oui.
C'est jeune. Mmh. Alors que une personne sur quatre seulement a été diagnostiquée avant 40 ans. Hein? Alors, donc, on voit bien le fossé entre ce début des tremblements qui démarre souvent dès l'enfance, et ce diagnostic qui intervient vraiment à l'âge adulte, après 40 ans.
Et donc, on s'aperçoit par là même qu'une errance de diagnostic, même une erreur, en tous les cas, d'évaluation du tremblement, si elle intervient alors qu'on a plus de 40 ans, finalement, elle est moindre, elle est moins grave, parce que de toute façon, le généraliste qui vous prend en charge va tout de suite vous diriger vers un neurologue. Alors que quand il s'agit d'un tremblement qui intervient dans l'enfance ou avant 20 ans, on ne va pas forcément penser à ça.
C'est ça. Et avec toutes les répercussions que ça peut avoir, puisque effectivement dans l'enfance, le tremblement va pose des problèmes pour l'acquisition de l'écriture, pour l'intégration dans la classe. On peut être aussi
compris qu'on peut être l'objet de risées. Hein, les enfants sont ce qu'ils sont et c'est ainsi.
Ben, je pense que pour dans le tremblement essentiel, la période la plus difficile, c'est effectivement l'enfance, parce que dans la cour de récréation, les enfants peuvent être très cruels.
Oui,
et donc les moqueries sont nombreuses.
Bien sûr, un enfant qui veut jouer, enfin tout bêtement qui veut jouer, un enfant, il est perpétuellement en action. Mmh. Et donc par conséquent, à partir du moment où il est en action, on a compris, le tremblement intervient et la moquerie avec.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que dit d'autre cette enquête ? Donc, on rappelle, sur 1500 personnes, vous l'avez effectué, cette enquête.
Donc, effectivement, on a effectué cette enquête auprès de 1500 personnes touchées par un tremblement essentiel. Mmh. Donc, les grands résultats, au-delà, ça a été aussi de mesurer toutes les difficultés au quotidien, notamment toutes les difficultés liées au handicap moteur pour se laver, s'habiller.
Oui, comme on disait, les actes de la vie de tous les jours.
C'est ça, mais aussi
ce qu'on fait tous sans y penser. Hein.
Mais aussi communiquer, et on voit qu'il y a énormément de difficultés, ne serait-ce que utiliser un téléphone portable.
Bien sûr, oui, surtout que c'est de plus en plus compliqué.
Un ordinateur.
Téléphone tactile, par exemple, on imagine, c'est l'enfer.
Exactement. Alors beaucoup de personnes ne peuvent même plus utiliser un smartphone tactile.
C'est ça.
Et il y a surtout, je pense, une méconnaissance des solutions techniques qui existent. Notamment, par exemple, si on prend le simple exemple de l'informatique, il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de compenser les mouvements anormaux.
Ah, ça existe.
Et, voilà. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait à APT très très vite. Après la naissance de l'association, on s'est regroupé, notamment en Île-de-France, pour faire un répertoire de toutes les aides techniques qui existent pour contourner l'obstacle et apprendre à vivre avec le tremblement. Et donc, il existe énormément d'aides techniques. Alors, ça va être pour manger des verres avec des couvercles et une pipette, des couverts lestés, parce que plus le couvert est lourd,
bête, ouais.
Et plus le tremblement est amorti, c'est la même chose.
Oui, alors ça paraît tout bête, parce que moi j'aurais pensé justement, on dit finalement faut faire moins d'efforts pour appréhender la cuillère ou la fourchette, mais effectivement plus elle est légère et plus effectivement elle est assujettie au tremblement.
Exactement.
Bien sûr, malgré tout.
Et donc il existe comme ça plein d'aides techniques qui n'ont pas été créées toujours spécifiquement pour les mouvements anormaux.
Mais qui servent.
Mais qui servent énormément. Donc ça, on l'a répertorié dans, et on en a fait un guide qui s'appelle APT, le guide pratique du quotidien.
Ça, c'est bien. C'est un guide, j'imagine, qu'on peut trouver à partir du moment où on s'adresse à votre association.
Vous trouvez sur APT.org.
D'accord. APTES.org.
Et donc, finalement, c'est un petit peu c'est la philosophie de l'association, c'est-à-dire que, en l'absence de thérapeutiques vraiment efficaces, il faut apprendre à vivre au quotidien avec ce tremblement, savoir s'adapter aux situations de handicap moteur clamadigénaire, et puis aussi apprendre à ne pas en avoir honte.
Et ça, vous en parlerez, j'imagine, lors de ce colloque du 8 octobre.
Alors, lors de ce colloque du 8 octobre, on réunit à la fois les personnes malades et les neurologues spécialistes des mouvements anormaux et les neurologues généralistes, à travers le matin une session plénière pour faire le point sur les connaissances scientifiques du tremblement essentiel. Et l'après-midi, il y aura deux tables rondes différentes, l'une sur la recherche scientifique parce que c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup, dans lequel on finance de nombreux projets de recherche, et une autre table ronde qui sera consacrée au parcours de santé, on y tenait beaucoup, et qui va réunir à la fois des neurologues, mais aussi des bénévoles de l'association, parce qu'on a une ligne d'écoute, donc on connaît bien aujourd'hui les problématiques particulières des personnes concernées par le tremblement essentiel, mais aussi des spécialistes, par exemple une assistante sociale spécialiste du handicap.
Et là, on parle du handicap, hein, justement, là, par rapport, par exemple, au MDPH, sur le plan administratif, à partir du moment où vous êtes reconnu comme étant concerné par le tremblement essentiel, il y a moyen, justement, d'avoir des aides qui pourront vous permettre d'acquérir des aides techniques. Encore faut-il être diagnostiqué comme tel.
Voilà. Alors, je dirais, effectivement, quand on bâtit bien son dossier pour la MDPH, ça marche tout seul. Sauf que pour arriver là, il faut un diagnostic. Or, on sait que l'accès au diagnostic est très difficile dans le tremblement essentiel. Et deux, ensuite, il faut, je pense, être aidé pour bien remplir son dossier de RQTH.
Très bien. On va continuer à parler évidemment avec vous de votre association, peut-être du colloque s'il y a encore des choses à ajouter, ne serait-ce que l'adresse. On va faire tout ça après une pause musicale sur lui.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Vie des associations, suite avec Fabrice Barque, qui est le président de l'association APT, association des personnes concernées par le tremblement essentiel, association qui organise le 8 octobre prochain un colloque justement sur le tremblement essentiel, avec au moins deux volets, un volet qui est plus particulièrement consacré aux avancées scientifiques, hein, les neurologues seront là pour en parler, et puis un autre volet qui est plutôt consacré au grand public, et à la santé des personnes qui sont concernées par le tremblement essentiel. J'ai un peu résumé la situation comme ça. Ça vous va,
c'est
Fabrice ?
C'est exactement ça.
Ah bien. Alors, il reste encore quelques places à pourvoir. Hein. On le rappelle donc, ce sera le 8 octobre prochain. Où précisément ?
Au Conservatoire National des Arts et Métiers.
L'adresse précise ?
292 rue Saint-Martin, dans le 3e, au cœur de Paris.
D'accord. Il reste quelques possibilités. Alors, on s'inscrit pour ça, j'imagine. On vient pas, on n'arrive pas les deux mains dans les poches. Je veux dire, c'est moi, j'ai envie d'en savoir davantage sur le tremblement essentiel. Hein, il faut...
Alors, effectivement, comme là, le colloque est quasiment plein, il vaut mieux s'inscrire au préalable sur apt.org, apt.org, avant l'événement.
Très bien. Alors ça, c'est une des nombreuses actions de APT, hein, ce colloque, ajouté à cette enquête dont nous parlions tout à l'heure. Mais APT, APTES, APT, c'est aussi un certain nombre de services que vous offrez aux personnes qui sont concernées justement par ce tremblement essentiel.
Oui, l'association a des missions habituelles, on va dire, d'une association en santé. Mais la première, étant donné les particularités du tremblement essentiel et notamment cette difficulté d'accès au diagnostic très vite, on a organisé des services. Et le premier d'entre eux, c'est l'orientation dans le système de soins et l'information des personnes malades. Et donc pour ça, on a mis en place une ligne d'écoute, APT Info Service, au 0 970 407 536. qui permet, qui fonctionne avec 10 bénévoles.
0 970 407 936 536, vous voyez, je savais que j'allais me tromper. 536.
Donc il fonctionne avec 10 bénévoles que je remercie beaucoup parce qu'ils sont vraiment extrêmement dévoués pour la cause du tremblement essentiel et qui répondent 6 jours sur 7 aux demandes. On oriente aujourd'hui plus de 1000 personnes dans le système de soins chaque année. Mmh. Donc le but, bah, c'est des gens qui téléphonent parce qu'ils souffrent de tremblements et souvent depuis longtemps et ils n'en connaissent pas la cause. Donc notre première mission, ça va être d'orienter ces personnes vers des neurologues.
C'est ça. La première orientation, ce sont les neurologues. Hein, voilà. On imagine, surtout si les médecins généralistes n'ont pas trouvé l'origine du tremblement et continuent à penser qu'il s'agit de stress ou de personnes un peu plus nerveuses que d'ordinaire. Mais quand ça dure plusieurs années, forcément, c'est qu'il y a une autre origine.
Il faut consulter. Quand on a un tremblement, il faut consulter un neurologue.
D'accord. Alors ça, c'est la... C'est le premier service, hein. Cette ligne d'écoute, elle est là uniquement justement pour orienter les malades ou...
Alors, elle est là pour orienter les personnes malades dans le système de soins, mais aussi les gens ensuite vont souvent rappeler pour deux choses. D'abord, alors que la maladie est extrêmement fréquente, les gens pensent être seuls au monde à vivre avec cette maladie. Donc, ouais. Très souvent, les gens veulent rencontrer d'autres personnes malades pour partager leur expérience, leurs difficultés, mais aussi leur réussite, leur manière de vivre avec le tremblement essentiel.
Les petites astuces du quotidien, exemple.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est extrêmement formateur, notamment donc, nous avons des délégués régionaux un peu partout en France qui organisent des réunions de personnes malades. Et c'est vraiment ce partage d'expérience. C'est aussi ce partage de bonnes pratiques, d'astuces dans la vie au quotidien, mais aussi de manière d'accepter la maladie qui permet à d'autres d'avancer.
Et c'est réconfortant de ne pas se savoir isolé, savoir que on va pouvoir justement bénéficier de l'expérience des autres. Et ça peut être réconfortant aussi pour soi-même et pour ceux qui sont nos proches, hein, parce que j'imagine que avec le tremblement doit survenir parfois le délitement du lien social avec les autres.
Alors c'est effectivement les syndromes secondaires de la maladie les plus fréquents. Hein. C'est comme le tremblement est un symptôme visible, les gens peuvent avoir peur de se montrer en public avec un tremblement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les adjectifs qui reviennent les plus souvent, c'est on prend pour une personne alcoolique, on prend pour une personne droguée. Et donc les trois syndromes les plus fréquents, ça va être l'anxiété sociale, la phobie sociale, où les gens renoncent aux sorties, renoncent éventuellement à leur poste professionnel.
Oui. J'allais dire renoncent en général. Hein.
Renoncent en général.
Ils veulent plus se montrer, ils veulent plus. Et effectivement, c'est pas comme ça qu'on vit. Hein. Et puis, on peut vivre avec le tremblement essentiel, évidemment, aidé et par l'association APT et aidé par un certain nombre de traitements sur lesquels on va peut-être pouvoir s'arrêter un petit peu. Mais d'autres services sont proposés ou par le biais de cette ligne d'écoute ou par d'autres moyens.
Alors, on a un site internet extrêmement consulté hein, qui est aujourd'hui le grand site internet sur le tremblement essentiel, apt.org, qui reçoit 14 000 visiteurs uniques chaque mois.
Hein. Visiteurs, ça veut dire que ce site abrite une sorte de forum où là encore on peut partager son expérience.
Les deux, tout d'abord, on a rassemblé surtout énormément d'informations grand public rédigées par le conseil scientifique de APT, donc des neurologues, mais aussi d'autres professionnels de la santé comme un psychiatre comportementaliste, une assistante sociale, pour faire un panorama à la fois de la maladie, mais aussi des situations de handicap, de la vie au quotidien, et aussi énormément de témoignages écrits, mais aussi des témoignages vidéo que l'on a rassemblés sur notre chaîne YouTube, Association APT, et qui permettent de voir effectivement d'autres personnes parler de leur maladie.
C'est ça, et par conséquent de faire obstacle à ces difficultés qui surviennent.
C'est ça.
Il y a d'autres services ou les autres services, par exemple vous parliez de l'assistante sociale, elle est également là justement pour diriger les malades vers la MDPH, voir un petit peu comment on peut ficelé, j'allais dire, un dossier.
Alors, effectivement, Maria, qui travaille à Apt Info Service, aide les personnes à monter leur dossier pour la maison départementale des personnes handicapées, pour que tout soit dans les clous. Et que en général, du coup, il n'y a aucune difficulté pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
C'est ça. Outre ces services que vous apportez, j'imagine que Apt, évidemment, est attentive hein, en tant qu'association aux avancées scientifiques. D'ailleurs, vous les financez, vous financez ces projets. Vous disiez un certain nombre de projets déjà financés. L'association, elle a 10 ans. C'est ça?
L'association, oui, a un peu plus de 10 ans.
Un peu plus même, mais elle ne l'était pas.
Et... ça. Elle est restée extrêmement jeune.
C'est pour ça.
Et effectivement, immédiatement, hein, ce que l'on souhaitait, c'était financer la recherche scientifique sur le tremblement essentiel. D'abord parce que on va dire qu'on est un petit peu en retard en Europe par rapport aux États-Unis. Et qu'on a une communauté de chercheurs en neurosciences particulièrement dynamique qui n'attendait que le financement pour pouvoir démarrer de nouveaux projets. Donc on a financé,
combien de projets,
12 projets.
Ah, pas mal.
Sur deux lignes, on va dire, principales.
Bah, si vous le voulez bien, ces deux lignes, on va en reparler dans un instant. On va s'offrir une pause musicale hein, pour respirer. Et puis on va revenir juste après pour continuer et terminer, malheureusement, de parler avec vous de l'association Apt sur l'antenne de Vivre.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
La vie des associations donne la parole à l'association Apt, association des personnes concernées par le tremblement essentiel, et à son président, Fabrice Barque. Alors Fabrice, vous parliez de ces deux axes de recherche dont vous financez les projets depuis 6 ans maintenant.
C'est ça. Le premier axe, c'est effectivement l'identification des gènes qui pourraient être à la cause du tremblement essentiel. Donc, que nous finançons deux banques de données, l'une à la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'autre à Strasbourg, et des travaux de séquençage du génome pour identifier le ou les gènes à l'origine du tremblement essentiel, puisque aujourd'hui, on a identifié 3 anomalies sur 3 chromosomes différents, mais le ou les gènes ne sont pas encore identifiés. Donc ça, c'est la première étape, parce que ça nous permettra de comprendre ce qui dysfonctionne et crée le tremblement essentiel dans le cerveau. Et le deuxième axe de recherche, c'est justement la compréhension du mécanisme qui génère le tremblement. On sait aujourd'hui qu'il y a une structure du cerveau qui s'appelle le cervelet, qui est une petite structure à l'arrière du cerveau qui coordonne les mouvements. Et ça, on sait aujourd'hui, notamment par des études que nous, on a financées en neuroimagerie, que cette structure, eh bien, elle est hyperactive et que cette hyperactivité, bah, c'est ça qui génère probablement le tremblement essentiel.
D'accord, il faudrait le calmer un peu, celui-là.
Voilà. Alors, on finance aussi des projets pour essayer de le calmer, ce cervelet.
D'accord.
Et on a financé notamment 2 projets qui sont porteurs d'espoir pour toutes les personnes concernées par le tremblement essentiel. Il existe aujourd'hui des techniques de stimulation électrique non invasives qui permettent de moduler l'activité des neurones. Et ça, actuellement, c'est 2 projets qui sont en cours de réalisation et ça offre beaucoup d'espoir pour demain.
On voit les avancées scientifiques. C'est pas frustrant quand même, de temps en temps, on se dit, j'imagine qu'on est pressé quand on est notamment touché par ce tremblement essentiel, on se dit, mais quand est-ce qu'elles vont arriver, ces molécules qui vont permettre aux uns et aux autres d'amoindrir, voire de stopper, on va dire, la progression de ce tremblement?
Oui, aujourd'hui, pour nous, c'est d'autant plus frustrant que, alors que le tremblement essentiel est une maladie neurologique fréquente, nous n'avons pas de traitement spécifique. C'est-à-dire que tous les traitements symptomatiques que nous prenons sont des traitements qui ont été développés pour d'autres maladies, notamment pour l'épilepsie, et qui fonctionnent dans le tremblement essentiel parce qu'ils agissent sur ce circuit qui dysfonctionne dans le tremblement. Mais nous n'avons pas de traitement spécifique.
Spécifique.
Donc, effectivement, nous sommes très impatients. Mais dans le même temps, je dirais depuis que nous finançons aussi des projets de recherche scientifique, c'est pour nous tous, au sein de HAPT, aussi beaucoup d'espoir.
C'est un grand espoir.
Parce qu'on voit des gens, enfin, des neurologues et des chercheurs en neurosciences passionnés qui viennent régulièrement nous rendre compte de leurs travaux. Et ça offre de l'espoir. Alors, pas nécessairement pour nous, mais au moins, pour nos enfants.
Vous disiez tout à l'heure, Fabrice, que en Europe, on est un petit peu à la remorque, on va dire, un petit peu à la traîne. Il n'y a pas de possibilité, justement, de faire se rencontrer les neurologues d'autres pays qui seraient plus en pointe. Je ne sais pas, vous pensez quoi, aux États-Unis, au Canada, ou...
Alors, aux États-Unis, oui, il y a ce qu'on appelle le Tremor Research Group. C'est-à-dire que les neurologues américains se sont regroupés au sein d'une entité pour faire avancer la recherche encore plus vite sur le tremblement. Donc effectivement, il y a beaucoup de publications aux États-Unis, mais aujourd'hui, bon, on a bon espoir. L'année dernière, on a organisé dans le cadre de la Semaine européenne du cerveau organisée par la Commission européenne une rencontre européenne des chercheurs européen sur le tremblement essentiel. Donc voilà, il faut garder espoir et faire bouger les choses.
Absolument. Il faut créer Neurologues sans frontières.
Hein. C'est ça.
Et il faut qu'ils viennent tous pour la même cause, la vôtre et la leur, parce que on est tous gagnants finalement dans tout ça. On rappelle tout de même, ça c'est important, le 8 octobre prochain, hein, ce colloque qui aura lieu donc au Conservatoire National des Arts et Métiers, donc vous allez me rappeler l'adresse parce que c'est important.
Au 292 rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement.
Et évidemment, il convient de s'inscrire, ça aussi, c'est aussi important parce que il reste quelques places, j'allais dire, elles vont être chères. Alors cela dit, on n'a pas parlé, c'est gratuit, c'est... Ou s'il
y a
une participation?
Il y a une participation aux frais d'organisation. L'inscription est de 20 euros par personne et de 30 euros pour un couple.
D'accord. Ça va durer donc toute la journée. Ça veut dire qu'il y a moyen de se restaurer au moment...
On organise effectivement, c'est toute la journée, hein, puisque le matin, il y a cette grande séance plénière rassemblant tout le monde, neurologues, personnes malades, familles, personnes aidantes, pour connaître aujourd'hui toutes les connaissances scientifiques du tremblement essentiel. Ensuite, on organise un buffet, ce qui permettra aussi aux gens de discuter. Et l'après-midi, donc deux tables rondes différentes, l'une sur la recherche scientifique avec tous les chercheurs en neurosciences francophones qui viendront faire le point sur les recherches en cours et sur les axes de recherche de demain. D'autre part, une table ronde sur le parcours de santé qui s'adresse plus aux personnes malades et à leurs familles.
Et l'enquête dont vous m'avez parlé tout à l'heure, elle sera publiée sur apt.org, apt.org. On rappelle également votre numéro d'écoute. Là, je fais le malin parce que je crois que je vais bien le dire. Le 0970 407 536.
C'est ça.
C'est joli.
Bravo.
Merci. Merci, Fabrice Barque.
Merci
d'être
Benjamin.
Venu. Et puis alors, évidemment, bon colloque le 8 octobre prochain au Conservatoire National des Arts et Métiers. Merci à vous, Fabrice.
Merci, Benjamin.